Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Prévost, directeur général du Ensemble pour le respect de la diversité, un organisme qui joue un rôle essentiel dans la sensibilisation aux enjeux de discrimination, d'inclusion, de diversité et de respect à travers le Canada. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Edmonton cette semaine pour donner une conférence sur l'inclusion et le respect dans les milieux scolaires. Vous êtes également invité afin que les écoles d'ici découvrent les approches de votre structure. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette tournée ainsi que de votre organisme?
C'est ma première fois en Alberta. Très content d'être ici. J'ai été invité avec l'organisme pour lequel je travaille par le Carrefour des savoirs pour l'entrepreneuriat arc-en-ciel. Donc, en collaboration avec l'Université de l'Alberta, il y a quelques jours, on organise des rencontres entre plein d'acteurs et d'actrices du pays, d'un peu partout, du Québec, de l'Alberta, des Maritimes, de la Colombie-Britannique. On se pose des questions autour des enjeux LGBTQ+. Et nous, notre organisme, depuis 30 ans, notre mission, c'est d'offrir des ateliers de sensibilisation dans les écoles primaires, secondaires, d'un peu partout au pays. Ce qu'on fait avec les jeunes, c'est qu'on parle de respect, d'empathie, d'ouverture. On parle de diversité, donc on donne des ateliers en lien avec le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie. L'objectif, c'est de créer des espaces plus sains, plus ouverts. Et j'ai une merveilleuse équipe d'une vingtaine d'employés qui font ça temps plein, aller dans les écoles. Et on est content d'être ici parce que souvent, les gens en Alberta ne savent pas qu'ils peuvent nous téléphoner. On sonne comme si on était juste au Québec. Moi, je vais où les gens nous téléphonent, donc je suis très content nous faire découvrir ici.
Vous organisez des ateliers, des activités un peu partout au Québec. Est-ce qu'il s'agit là de votre première expérience ou votre première tournée en dehors du Québec avec votre organisation?
Notre équipe va beaucoup en Ontario, Nouveau-Brunswick. Il y a de ça quelques temps, on était en Colombie-Britannique. Notre territoire principal, c'est le Québec, mais on va où les gens veulent qu'on ait. Donc, principalement dans la francophonie, mais nos ateliers sont bilingues. Mais souvent, justement, quand on est éloigné, on a moins accès à des services comme les nôtres. Mais c'est des gens qui nous entendent puis qui ont envie d'avoir des ateliers de sensibilisation dans leur école. Nous écrivent, nous appellent, nous textent, ils font ce qu'ils veulent. On est un organisme pan-canadien, donc on est juste physiquement basé à Montréal, mais on va un peu partout.
Et je pense que c'est particulièrement intéressant, surtout dans un contexte où l'équité et la diversité est menacée un peu partout au Canada.
En effet.
Sur ce, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans vos ateliers, peu importe la province où vous intervenez?
C'est une excellente question. Il y a une statistique récemment qui a été partagée, nous, qui nous a frappé, mais qui n'est pas non plus si différent de ce qu'on constate. 7 jeunes sur 10 se disent victimes d'intimidation à travers le pays. Des garçons, des filles, des personnes non-binaires, des personnes immigrantes, des personnes qui sont nées ici, des personnes grosses, des personnes petites. Tout le monde y passe en ce moment. Puis c'est ça qu'on constate dans les écoles, que c'est pas juste une communauté qui est visée. Parce que quand on parle de la diversité, je vous apprends aujourd'hui qu'on en fait tous partie de la diversité. Et en ce moment, bien, on constate que dans les écoles, ça revient en force. Il y a une haine décomplexée qu'on voyait peut-être un peu moins un certain temps. Mais moi, je vous le dis, on est dans certaines écoles où les jeunes lèvent la main en disant « Moi, je suis raciste. Moi, je suis homophobe. Moi, les femmes, j'ai de la misère avec elles. » Et ça, on voyait un peu moins ça il y a un certain temps. Donc, on constate un retour de la haine, un retour d'une violence aussi. Elle n'est pas que sur les réseaux sociaux. Elle est aussi dans les cours d'école, dans les corridors. Elle est dans la rue. Et ça nous inquiète comme organisme où on voyait une certaine avancée, lente, mais quand même une certaine avancée. Et depuis un certain temps, on voit que ça s'est un peu déconstruit tout ça.
Et vous avez évoqué la façon dont les réseaux sociaux alimentent cette haine de plus en plus décomplexée, parfois même jusque dans les salles de classe. Selon vous, est-ce qu'on peut parler de négligence de la part des autorités ou simplement d'un manque de volonté réelle pour agir?
Je ne sais pas si c'est de la négligence ou ils sont dépassés par ce qui se passe, mais moi, ça me fait peur de voir que nos plateformes, qu'elles soient Meta, TikTok, peu importe comment elles s'appellent, qu'elles aient pris le dessus sur nos valeurs et qu'aujourd'hui, la haine soit propagée et toléré de cette façon-là. Je le vois sur les réseaux sociaux quand il y a certaines vidéos qu'on signale parce qu'elles appellent à la haine envers un certain groupe. On l'a vu, nous, récemment, c'est arrivé. Il y a une vidéo où, justement, la personne dit que les personnes gays sont moins intelligentes, moins pertinentes que les autres. On aurait été une vingtaine à vouloir signaler la vidéo. Et ce que Meta nous a répondu, c'est que ça ne contrevenait pas contre leur loi envers la haine. Et pourtant, c'est de la haine. C'est très clair que ça l'est. Et donc, de voir qu'aujourd'hui, on est dépendant dépendants de ces plateformes-là pour se connecter aux autres, pour s'informer et tout, bien, que les gens voient ça passer, bien, ça fait peur parce que les jeunes et moins jeunes voient ça et se disent, bien, si les gens peuvent penser comme ça, pourquoi moi je pourrais pas?
En effet, il s'agit là d'un canal ouvert pour favoriser la discrimination. En ce sens, quels sont vos principaux outils pour contrer ces obstacles et continuer votre travail d'éducation et de sensibilisation?
J'ai envie de dire que prévenir coûte souvent moins cher que guérir. Et dans notre cas, à nous, c'est ça. On est de la prévention. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, et c'est toute une mission parce qu'on est très peu de gens, très peu d'organismes, on a très peu de moyens souvent. Comme je le dis, moi, j'ai une vingtaine d'employés pour tout le pays. C'est rien. Ça peut paraître comme une grande équipe pour un organisme communautaire, mais on se constate, et une des solutions, c'est quand on se parle, quand on a des outils pour mieux se parler, pour mieux se comprendre et s'écouter pour de vrai, ça fait toute la différence. Quand on est assis face à une personne qui semble si différente de nous, on se rend compte après un certain temps qu'on a plein de points communs puis qu'on peut créer des ponts. Et c'est ça, nous, qu'on fait comme organisme. Quand on va dans les écoles, mes équipes créent ces espaces-là de dialogue pour écouter. Quand les jeunes ne comprennent pas quelque chose, on est là pour l'expliquer avec bienveillance, avec respect aussi pour d'où est-ce que les gens viennent, parfois avec leur connaissance, leur ignorance. Ça prend du temps faire ça. Il y a une expression que j'aime beaucoup. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Mais c'est pas simple aller plus loin ensemble, mais c'est comme ça qu'on peut se bâtir un meilleur pays, c'est en se rencontrant en personne. Et c'est justement la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui et cette semaine à Edmonton, parce que je veux rencontrer l'écosystème d'ici, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire entre nous, qu'est-ce que le Québec a à apprendre d'ici, inversement, et comment on peut créer des ponts entre nous et non des murs.
Et j'aime bien ça, comment créer des ponts entre nous et non des murs. Ça, c'est une excellente question, surtout, on sait qu'il y a beaucoup de rivalités, surtout sur le plan linguistique, culturel et autres. Mais il y a ça. Et l'important, c'est de collaborer. Et je pense que c'est ce travail-là que votre organisme s'engage à faire partout au Canada. Et vous êtes à Edmonton depuis quelques jours. Avez-vous remarqué des différences marquantes entre ce que vous observez ici et ce que vous voyez au Québec?
Étant Montréalais, je suis privilégié parce que Montréal est une ville où justement les communautés LGBTQ+, gay, bi, lesbiennes, non-binaires ont beaucoup d'espaces ouvertement queer, ouvertement safe pour ces communautés. Puis safe, on pourrait en parler longtemps. Est-ce qu'elles sont vraiment toujours safe pour tout le monde? Pas toujours. Mais d'avoir juste un village à Montréal, d'avoir justement une grande rue où il y a plusieurs bars, cafés pour les communautés. Ici, ben, on m'a dit qu'il n'y avait qu'un seul bar. S'il y en a un deuxième ou un troisième, je veux le savoir parce que je veux les visiter. Je pense que justement, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il y a moins d'espace peut-être de rencontres officielles pour les communautés. Par contre, ce que je trouve beau, c'est de voir que les communautés sont là. J'ai vu des drapeaux un peu partout, donc de voir qu'il y a des cafés qui s'affichent comme alliés.
Sur la route d'Avignon, 82 avenue.
Exact.
Pas mal d'activités pour les communautés LGBT
et
tout ça.
Et ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'il y a ces espaces-là. Et que peut-être que oui, les communautés sont un peu plus fragmentées, mais je sens qu'il y a des alliés, je sens que les gens veulent se rencontrer. Et j'aime ça, moi, qu'il y a des gens de région qui veulent rester en région quand elles sont LGBTQ+. Je pense qu'il ne faut pas forcément vivre dans les grands centres pour s'épanouir. Et ce que j'entends ici, c'est qu'il y a de belles initiatives, et ça, je pense qu'il faut les souligner. On parle souvent de ce qui est négatif, mais je pense qu'il y a aussi de très belles choses qui se font ici en Alberta en ce moment, malgré le fait que le climat n'est pas facile. Je ne veux pas parler de certaines personnes, mais je pense qu'il faut mettre le doigt sur ce qui se fait de beau également.
Et là également, on pourrait parler de la responsabilité des provinces, une collaboration peut-être. Est-ce possible selon vous?
C'est la clé. Pour moi, ça va être la clé de succès pour les prochaines années. S'entraider, ne pas répéter les erreurs du passé, s'écouter, partager des ressources qu'on a entre nous, vraiment se donner rendez-vous aussi entre francophones à travers le pays. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir être ici en Alberta à des milliers de kilomètres de chez moi et d'être capable d'avoir une conversation dans ma langue principale. Donc, je pense qu'il faut qu'on se donne rendez-vous. Il faut aussi qu'on se parle entre francophones et anglophones. Arrêter d'alimenter aussi ce fossé qui se creusent parfois entre nous. Je pense qu'encore là, on est plus semblables que différents malgré le fait qu'on ne parle pas la même langue.
Nous l'avons évoqué tantôt, la question d'une certaine haine décomplexée qui semble se normaliser, que ce soit dans nos salles de classe et à travers les réseaux sociaux. Selon vous, quels sont les moyens les plus efficaces, que ce soit du côté des autorités ou des citoyens, afin de freiner ce fléau?
De solutions, je pense que la première, c'est que nos politiciens en position de pouvoir doivent avoir beaucoup plus de force et de courage face à ces grands de ce monde qui gèrent actuellement nos vies. Et ça, je trouve ça désolant parce qu'on en parlait. La charte des droits et libertés est mal appliquée, justement, sur les plateformes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense qu'il y a aussi une responsabilité individuelle. Les entreprises peuvent aider aussi à créer des espaces dans leur milieu pour justement parler beaucoup plus de respect, de civisme entre nous. Je pense qu'il faut qu'on se rappelle cette valeur-là qui est importante. Le respect, mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire aussi le respect pour toi, pour moi, pour nous, et s'en parler, se donner rendez-vous et aussi écouter nos jeunes. Les jeunes ont plein de solutions. Souvent, on est tout le temps une gang d'adultes qui veut penser pour les jeunes, puis je pense d'inclure les jeunes autour de la table. Ils ont plein d'idées, plein de solutions pour nous sauver de tous nos malheurs.
Merci Raphaël, notre échange arrive à terme. Est-ce que vous avez un dernier message à transmettre aux jeunes, aux éducateurs et aux communautés ici en Alberta? Particulièrement à Edmonton.
Aux collègues du Québec qui sont là. Si vous avez besoin de nous, sachez qu'on n'est pas très loin, malgré le fait qu'il faut prendre un avion pour se rendre à Montréal, mais qu'on peut connecter et vous n'êtes pas seul. Et je suis très content de le découvrir en venant ici qu'il y a de belles et fortes communautés LGBTQ+, aussi en Alberta. Mais pas juste LGBTQ+, qu'il y a aussi plein d'alliés. Je veux juste saluer tous ces gens. Puis que s'ils ont besoin de nous, ensemble, pour le respect de la diversité, va se faire un plaisir de venir les soutenir.
Merci beaucoup, Raphaël. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir partagé votre perspective sur des enjeux qui touchent directement nos communautés, ici à Edmonton comme ailleurs au Canada. Votre visite met en lumière l'importance de l'éducation, du dialogue et de la collaboration pour bâtir des milieux plus sûrs, plus inclusifs et plus respectueux pour tous les jeunes. Merci encore pour votre présence et bon succès dans la suite de vos activités. Au micro, Luc Hensley-Luma pour l'IJL.